et dans tous les domaines. Je voudrais avoir votre avis par rapport à aujourd'hui ce qu'on vit en France. Comment vous voyez l'adaptation de la démocratie et notamment par rapport aux nouvelles formes de contestation politique qu'on assiste depuis quelques mois. Madame Cutajar.
Alors, par rapport à l'utilisation de l'outil informatique, en fait, hein, nous, on pensait que. Alors, je vais peut-être réagir à cette question par rapport à ce vécu-là. Que l'outil informatique allait révolutionner le dispositif. Et lorsqu'on a mis en place les pétitions citoyennes, on s'est. Moi, j'avais dans l'idée que il fallait absolument utiliser l'outil informatique, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas de signature sous format papier. Et il y a eu une discussion, hein, dans le cadre de l'atelier, et les personnes ont tenu à conserver le document papier. Et bien nous en a pris parce que. Il apparaît, donc là aujourd'hui, il y a peut-être une douzaine de pétitions qui sont en ligne. Celles qui vont arriver aux 2800 signatures vont parvenir à y arriver. Il n'y en a qu'une pour l'instant, hein, qui a dépassé les 1500. Et pourquoi elle a réussi à dépasser les 1500? Parce que ceux qui l'ont déposée se sont investis et ont été partout pour faire signer la pétition. Et donc là, on se rend compte en fait que l'engagement du citoyen est absolument nécessaire si on veut continuer à faire changer les choses. Donc l'outil informatique, il est là simplement pour. Comment dire, c'est un moyen et ça ne permet pas à la démocratie de réellement être efficace. Donc, la démocratie, elle suppose vraiment l'engagement du citoyen et l'engagement du citoyen, eh bien, ça passe par la possibilité, effectivement, de donner du pouvoir, comme cela a été dit tout à l'heure. Et dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, le contexte historique de modification, enfin de demande de la part de nos concitoyens de participer, c'est pas simplement participer, c'est partager une vision de manière à pouvoir après décliner concrètement des actions qui nous amènent à construire une société nouvelle fondée sur une nouvelle vision. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de bien l'avoir en tête.
À moi. Moi, je crois que la démocratie, fondamentalement, c'est aussi du dissensus, c'est aussi du débat, c'est aussi de la confrontation des points de vue. Et je crois que ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que je me méfie autant de l'autoritarisme que de l'illusion citoyenniste, voilà, qui ferait une fois qu'on a dit peuple, on aurait dit quelque chose de cohérent. Je veux dire, il y a une diversité et le débat du peuple avec le peuple est fondamental. Et quand il n'y a plus de débat du peuple avec le peuple, je me dis qu'il y a une interrogation qui peut exister sur la démocratie. Et donc, du coup, le sujet, c'est comment on organise le débat sur les sujets majeurs de notre époque et pour construire l'intérêt général. Et on voit bien qu'on a du mal. Enfin, je veux dire, si on prend la question écologique et ce qu'elle porte comme transformation, on a du mal à poser cette question dans un débat les uns les autres. Il faut être lucide là-dessus pour se dire finalement comment on va réussir à construire l'intérêt général compte tenu que les ressources sont limitées, que l'humanité a elle-même possiblement une échéance, que nous sommes dans un pays où au 5 mai, hein, parce qu'on dit souvent que la date du dépassement, c'est en septembre, parce qu'on fait une moyenne mondiale. Mais si on ramène juste à nos modes de vie à nous, ici, hein, tous, au 5 mai, nous consommons ce que la Terre ne pourra pas renouveler et ne pourra pas nous restituer. Donc, du coup, nous sommes en surconsommation à partir du 5 mai dans notre pays. ça pose une question majeure. On voit bien qu'on est dans un moment où il faudrait un sursaut d'humanité, une capacité à débattre de ça. Et bien, vous voyez la complexité pour que ce débat existe. Donc oui, moi, je crois que profondément, il faut transformer la démocratie. Je ne crois vraiment pas que c'est une affaire d'outils. Je veux dire, il y a plein d'outils à imaginer, il y a plein de choses à faire. Et si je vais faire un détour par le numérique. Mais je crois qu'il y a une telle transformation des pouvoirs que l'organisation du débat et des contre-pouvoirs doit aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on est... Moi, je fais souvent un peu rapide, mais en disant on est passé de la lutte des classes à la lutte des places. Puis aujourd'hui, on est à une espèce de lutte des territoires. Voilà, si je fais un peu... C'est à grands traits et un peu rapide. Mais notre société était faite de corps qui pouvaient débattre, se confronter. On savait où étaient les pouvoirs. Il y avait le patron, il y avait l'ouvrier, il y avait un rapport de force identifié et ça alimentait une part de notre vie démocratique. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Tous les pouvoirs sont diffus. Ils sont faussement horizontaux. On vous laisse entendre que vous êtes libre, mais tous les jours, finalement, dès que vous faites une recherche sur Internet, vous avez immédiatement... vous en avez pour 3 jours à vous démêler de tous les messages qui vont avec la recherche que vous avez fait, parce que ça y est, on vous a ciblé. L'organisation des pouvoirs, la communication, l'explosion des formes de communication et le numérique est à la fois sans doute un outil merveilleux, mais aussi générateur de cette diffusion des pouvoirs et de ces pouvoirs cachés, et qui rend extrêmement compliqué le débat public, la délibération collective, la confrontation des points de vue. Et donc, je dis qu'il est à la fois la cause, et possiblement, il peut être une solution, mais à de multiples conditions. Sur le numérique, puisque je fais un petit détour, moi j'ai testé dans la région les outils numériques, une plateforme numérique, la même qui sert au grand débat à l'heure actuelle, alors pas configurée de la même manière que dans le grand débat, parce que dans le grand débat, vous ne pouvez pas amener vos points de vue, vous avez des questions et vous êtes... c'est pas exactement la même... Pas exactement comme la plateforme le permet en vérité. Parce que pour bien la connaître, elle a été... Mais c'est pas un débat partisan ici. Après, dans la discussion, je prendrai toutes les réactions, pas de problème. Mais en tout cas, cet outil numérique, on l'a testé. Et on en voit à la fois les possibles et toutes les limites. Les possibles, c'est que ça peut être un accélérateur pour se retrouver dans l'espace réel. Joe évoquait, et de manière extrêmement importante, la question des lieux où s'incarne la vie démocratique, où s'incarne la citoyenneté. Je pense que le numérique, s'il est pensé comme un outil pour aller vers ces lieux, pour retrouver l'espace public, la capacité à construire ensemble de l'intérêt général, alors là, il est intéressant. S'il est pensé comme le lieu du débat, je n'y crois pas une seule seconde. Mais j'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait. Il y a trop de silos qui se reconstituent dans le numérique, et il y a aussi des inégalités absolues qui se recréent devant le numérique. Et donc, du coup, je crois que ça peut être un outil au service de la réappropriation de l'espace public, non pas virtuel, mais de l'espace public qui doit fonder la démocratie, parce qu'on a un vrai sujet avec ça. C'est-à-dire que l'espace public, la rue, c'est devenu un espace d'évitement et pas un espace de rencontre. C'est un espace d'évitement de quoi ? De la sphère marchande hyper présente, de la pauvreté qu'on voit tous les jours et sur laquelle on ne peut pas tous les jours être en capacité de réagir. Et donc, du coup, il faut reconstituer cet espace public. Et moi, je crois que là, le numérique peut avoir un usage s'il permet de nous ramener dans des endroits. Et c'est une des vertus, comme ça, je vais équilibrer mon propos, pas laisser penser que je pense que le grand débat, mais j'aurais plein de choses à dire si ça vient dans la troisième partie. Débattre, c'est une bonne idée. Donc, une des vertus du grand débat, c'est de nous ramener dans des endroits où on peut discuter. Et ça, c'est fondamental dans une démocratie. Donc, le numérique, je ne crois pas que ça soit, en tout cas, il ne faudrait surtout pas qu'on laisse à penser, et que ça ne soit pas la course dans les prochaines élections à « moi, j'ai l'outil merveilleux qui va répondre tous les problèmes voilà. ». Je ne crois pas à ça. On discutera peut-être du RIC tout à l'heure. Je dirais tout ce que je trouve d'intéressant là-dedans. Mais ne laissons pas à penser qu'il y a un outil qui fait régler toutes nos difficultés. Ce n'est pas vrai. C'est comment, localement, et à toutes les échelons, on va reconstruire ensemble de l'intérêt général. C'est quoi le chemin de l'intérêt général, compte tenu du moment dans lequel nous sommes et compte tenu des défis qui sont devant nous.
Moi, je ne prendrai pas le débat sur le plan de l'adaptation. Je prendrai le débat à partir d'une réalité, c'est que nous vivons une crise démocratique forte. Et en même temps, une crise, c'est une chance. Donc, je vois au moins 3 sujets par rapport à ça. La crise de la démocratie, c'est une crise de la représentation. Regardez ce que disent les Gilets jaunes, ils ne font plus confiance. D'ailleurs, ils n'avanceront pas dans la mesure où ils n'acceptent pas la représentation. Ils ont tort d'ailleurs de dénoncer la représentation. Il faut au contraire dire qu'il faut que la représentation ait une réalité. Et je pense qu'une démocratie vivante ne se réduira plus à un bulletin de vote, ni même à un grand débat, même si le débat est nécessaire. Et d'ailleurs, on organise en France un grand débat, peut-être à défaut d'avoir ces petits débats qui font la rivière démocratique au quotidien. Et puis, on ne le réduira pas non plus au RIC. On en parlera, mais ça peut être réduit à ça. Et donc, si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est de redonner sens et réenchanter la démocratie de représentation en associant de manière continue, régulière, intelligente, les citoyens au processus de décision, à la copropriété de l'intérêt général, à la coproduction de décision. Et ça, c'est tout un sens, tout à fait essentiel, c'est un retournement démocratique, c'est de positionner le citoyen au cœur du processus. La deuxième question qui est posée aujourd'hui, vraiment, c'est la question de la légitimité d'une décision. Est-ce qu'elle est liée aujourd'hui à qui la prend ou à la manière dont elle est prise ? Et donc, on a tout à fait intérêt, non pas à relativiser la légitimité électorale, au contraire, à faire en sorte qu'elle retrouve du souffle, mais force est de dire qu'aujourd'hui, vous avez un taux d'abstention qui doit nous interpeller, vous avez un vote populiste qui doit quand même nous interpeller, et vous avez un mode de scrutin, et ce n'est pas une critique par rapport à qui que ce soit, mais comme un mode de scrutin qui fait qu'on choisit par défaut au deuxième tour, très souvent. Et ça pose donc la question de ceux qui sont élus de ne pas considérer qu'ils ont raison parce qu'ils sont élus. Et qu'il faut donc aller sur une autre légitimité, trois autres légitimités. C'est la légitimité par le résultat. Et ça, depuis 40 ans, un décalage entre les promesses tenues et les promesses non tenues. Enfin, un décalage fou entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est peut-être travailler une légitimité par le symbole. Ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on a besoin de simplicité et de modestie dans l'espace public. Il y en a marre de ce bling-bling, de l'entre-soi des élus. Tout ça, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus simple. Il y a des pays nordiques qui font la démonstration qu'on est député, mais on est juste de passage, on est président. Mais voilà, ce n'est pas tout le faste qui est tout autour de ça. Ça fait vraiment encore république, un peu loin des gens. Il ne faut pas s'étonner que les gens se rencontrent dans les ronds-points. Il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent là dire leur ras-le-bol. Il y a quelque chose, il y a un symbole. Regardez, dans ma commune, j'ai compris ça il y a quelques temps. J'avais fait les vœux du maire, comme beaucoup de maires, et puis j'étais plutôt content, il y a 1000 personnes pour 13 000 habitants. Je travaillais pendant 15 jours les vacances de Noël, aux dépens d'ailleurs de ma famille, je le regrette aujourd'hui. Je faisais un discours, mais au fond, psychanalytiquement, je ne vais pas faire du mauvais Freud, mais quand vous faites un discours, vous ne dites jamais de mal de ce que vous faites. Donc c'est un discours d'autosatisfaction, vous n'avez pas un maire qui dit que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc du coup, vous faites tourner tout ça, vous préparez un concert de qualité, les petits fours et tout ça, jusqu'au jour où ma femme, mon épouse, qui est la plus critique de toutes et elle a raison, me dit un jour, mais Joe, t'es sympa, mais tu penses, pourquoi ils viennent les 1000 personnes là, pour les petits fours ou pour les discours? Et là, je dis, Cathy, t'as raison. Et on est passé des vœux du maire aux vœux de Kingersheim, c'est-à-dire de la population. Avec un concert, des marionnettes géantes sur la place publique à l'extérieur, 1500 personnes, tout à fait modeste, les gens se souhaitent la bonne année. Pas besoin de passer par le maire pour souhaiter la bonne année. Un autre exemple, moi qui étais longtemps conseiller général, conseiller régional, j'en ai fait, surtout au premier mandat, quand j'étais un peu les dents qui raclaient le plancher, j'en ai fait des coupées de ruban. Mais avec le recul, et ayant éprouvé cela, je vois comment on se presse pour être sur la photo, avec le sénateur du coin qui n'y est pour rien, le député qui vient mais qui n'y est pour absolument rien, parce que ce n'est pas son rôle, il est législateur, le conseil général qui vient pour 22%, ça dépend des départements. Et puis la région, ça dépend si c'est chez Charles ou ailleurs, c'est du 7 ou 8%. Et tout ce bon monde est un coupé de ruban qui pèse des tonnes puisqu'il faut plusieurs personnes pour le porter. Eh bien, dans ma commune, il n'y a plus de coupé de ruban, plus d'inauguration. Il y a des temps d'appropriation organisés par les habitants eux-mêmes. Lorsqu'on a ouvert le parc des gravières de 8 hectares, en face du collège, tous les enfants à la sortie d'école, début des vacances, leurs vacances, c'était le parc des Gravières, c'est eux qui ont inauguré, ils sont les propriétaires. Parce que le coupé de ruban, c'est quand même quelque chose de psychanalytiquement bizarre. C'est-à-dire que, n'oubliez quand même pas que c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et au fond, on n'est pas propriétaire de ce qu'on fait, on est juste de passage, on est service du bien commun, et tout le reste, c'est du bling-bling. Donc je...
Madame Cutajar souhaitait réagir.
Je trouve que c'est juste un tout petit peu excessif. On a, alors, nous, on a, comment dire, On s'est doté d'une pacte mobile. Alors, qu'est-ce que c'est la pacte mobile ? Bien, c'est une camionnette, en fait, aux couleurs de la démocratie. Et il s'est agi de l'inaugurer, cette pacte mobile, le jour où on a réuni le Conseil de suivi de la participation citoyenne. Eh bien, j'ai souhaité, en fait, qu'on inverse le processus d'inauguration. C'est-à-dire que c'était un citoyen, enfin deux citoyens, des ambassadeurs du pacte, d'ailleurs, parce qu'on a mis des ambassadeurs du pacte qui sont là justement pour aller faire la promotion du pacte pour la démocratie à Strasbourg. Donc, on a mis des ambassadeurs, des agents et un élu. Et ce sont eux qui ont présenté au maire cet outil, ce nouvel outil de la démocratie qui était là, qui a été conçu pour aller vers, justement, pour pas. Voilà, c'est juste pour dire que ça peut évoluer, les inaugurations. On a tous les trois, enfin tous les six, puisqu'il y avait le maire, mais il y avait moi, il y avait les citoyens. On a découpé le ruban et sur la photo, je trouve que c'est assez symptomatique, emblématique d'avoir effectivement toutes les parties prenantes inaugurer ce nouvel outil. Voilà, c'est pour dire que ça peut évoluer, c'est tout.
Chantal, il n'y a aucun problème. C'est juste mon petit cheminement personnel, mais ce n'est pas à valeur d'exemple. Parce que moi-même, j'ai vu combien on était parfois dans des simagrées un peu comiques, la cour de récréation classique que les gens ne supportent plus. Je termine juste sur la quatrième composante de la légitimité aujourd'hui. Elle est profondément dans le processus d'associer les citoyens, les experts, les personnalités qualifiées. Chaque projet doit avoir une séquence démocratique. Et là, il faut faire preuve d'inventivité démocratique. On est des paresseux en démocratie. On s'est appuyé sur le bulletin de vote comme l'alpha et l'oméga, et ça donne quoi ? Ça donne une délégation de pouvoir et aussi une délégation de responsabilité. Nous sommes tous partie prenante de faire de l'espace, de nos espaces, des espaces en co-responsabilité. La démocratie providentielle, c'est du consumérisme électoral. La démocratie construction, c'est à la démocratie ce que Maria Montessori fait en pédagogie active. C'est de considérer les gens comme des acteurs potentiellement citoyens. Ce n'est pas des gamins. On a tous un potentiel d'inventivité. Pourquoi ramener ça à une centralité ? Pourquoi ramener ça à quelques élus ? Il faut juste qu'on soit, nous, en capacité d'inventer des processus d'association des citoyens. C'est compliqué de créer du désir démocratique, ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie dans ma commune, tous les 3 ou 4 ans. Comment mobiliser les habitants là-dessus ? En 98, j'avais fait le tour de la ville du mois de mai au mois de septembre pour symboliquement aller rencontrer tous les habitants, appartement, maison par maison. Non pas pour la proximité, parce que c'est quand même un concept très ambigu, la proximité. S'il n'y a que la proximité du maire qui se déplace, c'est une forme de clientélisme. Je ne supporte pas ça. Par contre, j'ai profité de l'occasion de rencontrer les gens pour remettre un questionnaire sur « Parlons ensemble notre ville ». Eh bien, la proximité géographique, physique, a fait que les gens, 43% des foyers qui et moi, ont consacré une demi-heure en famille pour réfléchir à l'avenir de la ville. Et la restitution, c'était 3 réunions, réunion ville et non pas de quartier, de 300 personnes. Et on a dit, écoutez, là, je prends plus vos gendarmes couchés, les crottes de chiens que j'ai vues dans le passage lorsque je suis allé vous voir. On réfléchit éducation, culture, sécurité. On amène le débat. Au fond, la démocratie construction doit être strictement une démocratie exigeante. Et c'est là le rôle du politique aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir s'il est d'abord de droite ou de gauche, est-ce qu'il est capable de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. C'est l'éthique de l'action publique et l'éthique de la discussion qui doit nous rassembler aujourd'hui.
Charles, vas-y. Peut-être petite réaction complémentaire. Alors, le trait était forcé, mais enfin, parfois, on voit ça. Ce que raconte Jo, ça existe un peu. Et comme il y a un deuxième élément qui existe et qui, à mon avis, pose la question que Jo pose aussi souvent et qu'on a posé ensemble. On a même été dans un début de groupe de recherche, mais il s'est arrêté sur la posture de l'élu. Parce que la question, elle est aussi de quelle manière nous, dans notre fonction, on arrive à faire vivre cette construction de l'intérêt général, ce débat, et comment nous ne sommes pas que des sachants, mais aussi des questionnants. J'insiste là-dessus, c'est le plus souvent, ce qui est attendu d'un élu, c'est qu'il vienne dans un endroit et qu'il soit le porteur d'une parole et qu'il ait la réponse. Ça entretient le rapport consumériste à la démocratie. C'est-à-dire que si nous, on reste dans cette posture de « j'ai » la réponse, et j'ai le souvenir, quand j'ai fait ma démarche autour de la démocratie permanente, d'un élu qui avait témoigné en disant, alors pendant cette tournée, Charles, il m'a fait venir dans un café un matin, je ne savais pas qui j'allais voir, je ne savais pas ce qui allait se passer, je savais vaguement qu'il y avait un thème, et je ne venais pas en représentation de la collectivité.
Parce que souvent, on vient en représentation. Et quand on vient en représentation, vous avez une petite note qui vous a été préparée, qui vous dit exactement ce que vous devez dire. Parfois même, d'ailleurs, vous l'avez eu une heure avant. Hein, c'est la vraie vie d'élu, quand même, des fois. Et vous l'avez eu une heure avant, et devez vous approprier le contenu, et vous devez, hop, redistribuer ce que vous avez dans cette note, sans être forcément, complètement impliqué dans l'élaboration de ce qui est dit là. Et donc, se retrouver dans la situation de poser des questions aux gens, l'élu, c'est aussi celui qui doit être du côté de la question, il n'est pas que du côté de la réponse. Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait une transformation. Alors, ça prend du temps, mais de ce qu'est être élu. C'est une question qu'on pose peu. Et d'ailleurs, dans la démocratie permanente, il y a un des chantiers qui a été retenu, c'est quoi l'élu du futur ? C'est pas juste c'est quoi la démocratie de demain. Personne n'a dit dans toute la tournée, mais j'ai pas vu tout le monde, qu'il fallait plus d'élus. Moi, j'ai pas entendu ça. Tout le monde a dit que le vote, c'était certainement pas... Oui, je suis pas tant sûr que ça. C'est en plus pas unanime sur chez les Gilets jaunes. Je crois qu'ils veulent plus de la représentation telle qu'elle est. Mais j'ai pas, pour avoir eu des échanges assez réguliers, j'ai pas entendu qu'il faut plus forcément de représentants. D'ailleurs, ils arrivent vite. Moi, je les ai reçus et ils ont envoyé des messagers, pour pas dire des représentants. Mais ça commençait à ressembler quand même à un représentant, le messager. Et donc d'une certaine manière, ils arrivent à la conclusion aussi que à l'échelle d'un pays comme le nôtre, comment on fait vivre, voilà. Donc mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente d'avoir des élus autrement. Ça, c'est unanime et que c'est une vraie interrogation. Et puis le deuxième point que je voulais souligner par rapport à ce qui était dit, c'est que ce changement de posture, il va avec cette capacité permanente à faire vivre la délibération. C'est-à-dire, c'est le débat et la délibération. Et là, c'est vrai que toutes les mesures qui viendraient comme des couperets pour dire c'est noir ou blanc, c'est ça la solution, qui ne permettrait pas, je parle de la lenteur, mais qui permettrait pas un processus de construction de l'intérêt général, ça n'enrichira pas la démocratie. Moi, pour moi, la démocratie, elle fonctionne sur cette capacité progressive à passer de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Quand vous interrogez les gens par sondage, ils vous répondent, moi, je vous donne une anecdote en région centre qui témoigne de ça. En région centre, en 2011, on a changé toutes les horaires de train soi-disant pour se caler sur les trains parisiens, on appelle ça le grand cadencement. Vous savez, à Paris, vous avez des trains 7h13, 8h13, 9h13, 10h13 et toute la journée comme ça. Alors nous, c'est 7h13, 8h13, 9h13, puis ça reprend à 17h, hein, mais parce qu'on n'est pas, on n'a pas exactement le même nombre de trains. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Des collectifs de citoyens se constituaient un peu partout dans les territoires pour dire « mais là, vous êtes en train d'enlever mon arrêt, ma gare ». Et c'était c'était d'abord une approche centrée sur ce que je vis tout de suite. Et puis plus ils ont travaillé sur la question, plus ils sont devenus des experts du train, plus ils ont évolué vers l'intérêt général, plus ils ont été capables d'expliquer comment tout ça fonctionnait, et plus on aurait dû, et on l'avait proposé, ça n'avait pas été retenu à l'époque, plus on aurait dû faire des états généraux du train avec eux. Ils en avaient plus à raconter que plein de spécialistes de la question. La même en ce moment avec les maternités, vous avez interrogé les gens, ils vous racontent comment ça marche de l'intérêt. Parce que quand ils discutent, débattent ensemble, ils construisent de l'intérêt général. C'est pour ça que c'est fondamental d'avoir cette capacité à discuter, à débattre. Et ce n'est pas toujours simple, mais ça ne peut pas être exceptionnel. Ça doit être permanent et organisé de manière permanente.
Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, non, je voudrais juste revenir sur cette notion d'élu autrement. En fait, ce n'est pas une question de posture. On l'a tous compris, ce qu'il faut, c'est partager le pouvoir. Mais pour pouvoir partager le pouvoir, ça demande de s'interroger soi-même quel est son rapport au pouvoir. Et c'est compliqué, je veux dire. Moi, je ne sais pas si chez toi, toute ton équipe est là-dedans, mais comme tu l'emmènes, bon, tu peux le réussir. Mais moi, j'ai souvenir que lorsqu'on a mis en place cette démarche, j'avais proposé la constitution d'un atelier d'élus, c'est-à-dire justement permettre aux élus de partager sur la notion de démocratie pour pouvoir collectivement adopter une démarche. Et j'avais d'ailleurs invité Jo à venir. Alors, qui y avait, Jo ? Il y avait les 5 ou 6 qui étaient persuadés de la démarche. Alors, moi, la question que j'ai, parce que je n'ai toujours pas la réponse, c'est comment on fait pour amener les élus à cela ? Moi, j'ai l'impression que ceux qui ne seront pas dans cette perspective à l'horizon 2020, pour parler des échéances locales, iront certainement dans le mur, mais qu'on n'arrivera plus à faire coexister dans des listes des gens qui sont très, très éloignés de cette conception. Et que celle qui doit être emmenée, ce que le maire doit porter, c'est véritablement cette conviction, je le répète parce que je pense que c'est absolument cardinal, de se dire que le pouvoir ne m'appartient pas en réalité. Je suis un facilitateur, je fais émerger l'intelligence collective. Je suis capable de mettre autour de la table toutes celles et ceux qui veulent bien venir participer au bien commun, partager cette vision du bien commun. Et c'est lorsqu'il y a des discussions et qu'on voit que ça échappe et que ça va dans l'intérêt, il suffit de dire « bon, où est le bien commun ?» Et on recadre automatiquement et on arrive au bout d'une heure, au bout de deux heures, au bout de trois heures, eh bien, à dégager une solution qui, en réalité, démontre qu'il existe une intelligence collective qui va au-delà de les propositions qui peuvent être faites individuellement. Mais, encore une fois, Géo, si tu as la solution, comment est-ce qu'on arrive à faire prendre conscience à l'élu qu'il est au service d'eux, mais pas simplement une posture intellectuelle, hein, quelque chose d'une vraie conviction profonde et portée.
Moi, je pense que la question est tellement importante et c'est surtout pas sous-estimer le travail que fait Chantal dans des conditions pas faciles. Parce qu'on peut dire qu'à Strasbourg et dans les grandes agglomérations, l'administration a quand même beaucoup de pouvoir aussi. Et puis, il y a un habitus de pensée de certains nombres d'élus. Mais je crois profondément, compte tenu de la crise et compte tenu de la transition démocratique que nous devons porter, ça doit être le maire qui doit être en charge de la transition démocratique. Et il ne choisit son équipe que par rapport à ça. Et il faut souhaiter que les habitants mettent ça dans leurs critères. S'ils considèrent que l'élu sera celui, l'uburoi, qui décidera tout à la place des gens, je pense que la grille de lecture des habitants sera de plus en plus « Est-ce que nos élus sont capables de partager, de mettre en scène les séquences démocratiques, de telle sorte qu'on soit considéré pas seulement lors des élections, mais tout au long de l'intervalle des élections. » Et pour dire cette question, en fait, dans notre commune, on a cheminé ensemble, avec l'équipe des élus, avec les collaborateurs. Je peux vous dire que mon directeur général des services, mon directeur des services techniques pourrait venir à ma place vous dire la même expérience et la même conviction. Ou mes adjoints pourraient vous dire la même chose. Donc c'est un travail d'équipe, mais qui se fait dans un perpétuel aller-retour entre la pensée et l'action. Accepter qu'on se plante, c'est de la recherche-action, et parce que c'est complètement nouveau, parce que c'est un retournement complet. Et donc pour mobiliser le conseil municipal, en 2015, après presque 20 ans de recherche-action, nous avons proposé une charte du renouveau démocratique qui pourrait être appliquée à quelque échelle que ce soit. Le premier principe, c'est de dire... Il faut dorénavant pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les élections, ce que j'appelle démocratie-construction. Deuxième principe, associer les citoyens et toutes les ressources de sens au processus de décision plutôt que de rester dans l'entre-soi des élus, des clivages partisans entre nous souvent artificiels lorsqu'il s'agit d'enjeux locaux. Et là, on est dans la cour de récréation permanente que les gens ne supportent plus. Le troisième principe, là j'ai mis du temps à le mettre en forme parce que ce n'était pas de ma nature au départ. Je suis plutôt venu... dans un parti politique à l'époque avec l'idée de se battre contre. J'étais au PS pendant très longtemps, et comme d'ailleurs souvent tous les partis politiques. Mais je crois qu'au fond, la vraie vie, c'est pas l'affrontement stérile et systématique. La vraie vie, c'est la capacité de fertiliser les points de vue différents. Et la fertilisation des points de vue différents, eh bien, ça prend du temps. Ça prend de la modestie, ça prend de l'humilité. Le quatrième principe, c'est susciter le pouvoir d'agir des habitants plutôt que la dépendance, la délégation de responsabilité. Nous devons construire des chemins d'espérance. Au fond, c'est ce que disent les gens aujourd'hui, plutôt que des chemins d'a-responsabilité, où on délègue à quelques-uns, je te prends et je te jette. Puis le dernier principe qui est très important, et là c'est nourri dans la pensée du pacte civique, mais aussi place publique, on essaie de l'appliquer, mais aussi tous les gens qui ont réfléchi, comme Patrick Vivray et d'autres, sur l'éthique de la discussion. Comment apprendre à s'écouter, à se parler. Et ça se traduit même par de l'ingénierie démocratique. Quand, par exemple, nous avons lancé une séquence sur lieux de culte musulman porté par Dekinir Saïmoi de confession musulmane. Sujet casse-gueule. Mais j'ai dit, c'est parce qu'il crée les peurs, parce qu'il y a des gens qui instrumentalisent cela, que ça mérite un débat public. Avec un périmètre démocratique au départ. Moi, maire de Kinyersheim, je considère que tous les Kinyersheimois, quelle que soit leur sensibilité religieuse, doivent avoir un lieu digne de pratiquer leur religion. Et il se trouve que le terrain qu'ils visaient, c'était un terrain communal. Ça m'a permis de faire un débat là-dessus. Première réunion publique à la Maison de la Citoyenneté. Et je peux vous dire que là, on a préparé avec l'équipe projet. Et là, c'est, en fait, il y a une ingénierie démocratique qui fait qu'on arrive à élever le débat public, ou alors c'est la foire d'empoigne. Eh bien, les règles étaient simples. Quand vous exprimez, vous ne dites pas « on », vous dites « je », j'assume ma responsabilité. Et on fait l'effort de ne pas s'applaudir. Eh bien, la réunion a duré 3 heures, on a amené du contenu. Il y avait notamment le représentant de l'Observatoire national de la laïcité, on avait Joël Roman, le philosophe, qui est président de l'association République Islam, qui ont nourri la réflexion. On avait des gens qui étaient là, moi j'ai peur des musulmans. Il y a des gens qui étaient là, musulmans, Kinirsa et moi musulmans, en disant mais je paye des impôts, j'ai envie aussi que... Et on a fixé le cadre, pas de financement de l'État, etc. À l'issue de cette réunion, et pour moi c'est un moment de bonheur, le président de l'association... Un jeune, monsieur le maire, est-ce que je peux peut-être conclure? Je dis, avec plaisir. Et il a dit, on s'est donné comme raison de ne pas s'applaudir, on n'est pas à la cour de récréation, mais je voudrais vous remercier pour le respect que vous avez eu par rapport à cette question. C'était difficile pour nous de l'accepter qu'il y ait un débat. Je ne suis pas sûr que si on avait mis à l'ordre du jour l'Église catholique, on aurait fait ce débat entre nous. Mais c'est précisément les mis en route parce que je veux qu'il y ait du débat, qu'on ne reste pas dans le silence de haine. Eh bien, il a terminé ses propos. Les gens se sont levés et ils sont tous applaudis. Magnifique. Et je suis allé sur Facebook en disant plus heureux qu'un soir d'élection. Il y a des moments de bonheur.